Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteur dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute!
Aujourd'hui, je souhaite évoquer avec vous un sujet qui me touche énormément et qui me paraît essentiel, c'est l'atteinte à nos libertés. Nos libertés d'éducation et nos libertés d'instruction. Ce sujet, j'ai envie de l'évoquer depuis le discours d'Emmanuel Macron du début du mois d'octobre, qui a décidé d'interdire l'instruction aux familles, en famille, et de contrôler encore plus les écoles hors contrat. Ceci me choque énormément, car ce sont des décisions qui sont totalement contre le principe de nos libertés. La liberté d'instruction qui est donnée aux parents est essentielle. La liberté d'enseignement qui nous permet d'offrir un enseignement adapté à chacun et dans le respect de nos valeurs me paraît aussi fondamentale. Et de plus, pour moi, c'est simplement le principe de la liberté. Nous maintenir nos libertés. Monsieur Blanquer nous ordonne aujourd'hui d'avoir une discussion avec les élèves de nos écoles sur le thème de la liberté d'expression suite à l'assassinat horrible de Samuel Paty. Cette liberté d'expression est vraiment aussi essentielle dans un pays en démocratie. Et d'un autre côté, ce même gouvernement souhaite nous retirer la liberté d'instruction et la liberté d'enseignement. Donc, on doit à juste titre défendre la liberté d'expression, mais de l'autre côté, le gouvernement veut nous retirer une partie de nos libertés fondamentales. Mais où est la logique? Alors, on nous explique que ce projet vise à lutter contre le séparatisme, mais je ne pense pas du tout que ceci ait le moindre effet. Au contraire, les choses continueront comme avant de ce côté-là, et ce sont les personnes qui sont tout à fait honnêtes et cherchent toujours à apporter le meilleur aux enfants en proposant des pédagogies innovantes, même classique, en gardant leurs enfants à la maison, qui seront encore une fois pénalisés. Je rappelle que les écoles où on a trouvé des problèmes de ce genre sont des écoles clandestines, c'est-à-dire que ce sont des écoles qui ont ouvert sans autorisation de l'État, alors que les écoles hors contrat sont déclarées à l'État, doivent bénéficier d'une autorisation de l'État pour ouvrir et sont extrêmement surveillées. De même, l'instruction en famille, les familles doivent déclarer leur choix à l'État, à la mairie et reçoivent chaque année la visite d'un ou plusieurs inspecteurs d'académie. Je connais une famille de deux enfants scolarisés à la maison qui a reçu d'ailleurs la visite de deux inspecteurs d'académie. C'est assez amusant quand on voit que des écoles avec plusieurs classes de 30 élèves ne reçoivent qu'un inspecteur d'académie une fois de temps en temps. C'est pour dire comme le contrôle est renforcé. Donc ils vont aussi renforcer les contrôles sur les écoles hors contrat. Mais ça aussi, ça me semble difficile de faire pire de ce qu'ils font actuellement. Il faut vous dire que chaque année, hein, moi en tant que directrice d'école hors contrat, nous avons la visite de plusieurs inspecteurs. On a vu parfois 7 inspecteurs un même jour pour une école de 130 enfants. Cet inspecteur, hein, avec une visite par surprise, bien sûr. En général, nous, c'est la visite de 3 ou 4 inspecteurs pour une école de 160 élèves et visite par surprise également. Ils passent une demi-journée à visiter l'école, à nous questionner sur des sujets variés et parfois, mais même très éloignés de la pédagogie et parfois même aucune question sur la pédagogie. Et là aussi, pourquoi fait-on ça ? Les parents ne sont-ils pas aptes à juger si une école répond aux besoins de leur enfant ? C'est l'État qui est capable de juger ce qui est bien pour leurs enfants. On prend des lois comme le fait d'obliger à, pour enseigner d'avoir un bac plus 3 pour être un bon enseignant. Alors que moi, j'ai connu, avant toutes ces lois, de nombreuses personnes qui n'avaient parfois pas le bac ou juste le bac et qui étaient de bien meilleurs enseignants que certains qui avaient le bac plus 7 ou 8. Quel est le rapport ? Et c'est cela qu'ils contrôlent quand ils viennent nous voir, les diplômes de nos enseignants, les bâtiments, les couloirs, les toilettes, la manière dont les enfants déjeunent, mais très rarement le contenu que nous offrons à nos élèves. Jamais ils demandent les valeurs qui nous ont poussés à créer nos écoles, quels sont nos objectifs, etc. Jamais ce genre de questions. Ils vont demander, ils ont pour projet donc de demander aux écoles hors contrat de déclarer l'origine de leurs fonds. Alors déjà, il faut vous dire qu'ils demandent dans le dossier de demande d'ouverture de l'école un état prévisionnel qui précise l'origine, la nature et le montant des principales ressources dont disposera l'établissement pour les 3 premières années de ce fonctionnement. Donc à quoi ça sert ce genre de loi ? Ils souhaitent lutter contre des écoles qui recevraient, soi-disant, des fonds venant de l'étranger et principalement de l'Arabie Saoudite et de la Turquie. Mais est-ce le bon moyen pour lutter contre l'influence de ce genre de pays ? Moi, je ne le pense pas, car on sait très bien que des pays comme la Turquie peuvent tout à fait avoir des sociétés écrans domiciliées en France, mais donc ils ne verront rien du tout. Et encore une fois, ce sont les bonnes personnes françaises qui ouvrent des écoles ou qui reçoivent leurs enfants chez eux, qui instruisent leurs enfants chez eux, avec de jolies valeurs qui seront ennuyées. Il ferait bien mieux de mettre en place des contrôles financiers adaptés sur le terrain. Il souhaite aussi rendre possible la fermeture administrative d'une école hors contrat sans aucun jugement. Mais ça aussi, ça me semble encore une fois très risqué et absolument pas dans le respect de la liberté, encore une fois. Liberté d'enseignement, liberté d'entreprise, liberté d'association. C'est pas possible d'accepter de tels agissements sans la garantie de l'intervention d'un juge. Nous sommes encore heureusement dans un état de droit. Donc il faut vraiment qu'avant une telle décision, il y ait un jugement, une enquête, etc. Et encore une fois, pourquoi ne s'attaquer qu'aux écoles hors contrat et à l'instruction en famille ? Je pense qu'il serait aussi très important de faire des investigations auprès des organismes périscolaires, auprès des écoles sous contrat aussi qui sont rattachées à l'État, auprès des structures sportives, auprès des associations d'enseignement de langue religieuse, plutôt que de s'attaquer à l'instruction en famille et aux écoles hors contrat. Les écoles hors contrat, il faut vous dire qu'elles sont déjà extrêmement surveillées depuis une nouvelle loi, la loi Gatel, qui a été votée en avril 2018, alors qu'aucun... Aucun contrôle renforcé n'a été décidé envers les écoles sous contrat. Il faut savoir aussi que les écoles hors contrat ne réunissent qu'un infime nombre d'élèves, 0,5% des enfants scolarisés. Et l'instruction en famille, encore moins, 0,2% par rapport au système public et privé sous contrat de l'État. Alors, commençons peut-être par là où se trouve le plus d'élèves. Donc ces projets de loi, pour moi, me semble vraiment très hypocrite et sont encore une fois à l'encontre de nos libertés. Déjà, la loi Gatel rend l'ouverture d'écoles hors contrat extrêmement difficile. Mais n'oublions pas que c'est grâce à ces écoles que des innovations pédagogiques peuvent avoir lieu. Alors c'est une de leurs réponses quand ils veulent supprimer l'instruction en famille. Ils disent, mais ouvrez des écoles hors contrat. Mais sachez que vraiment, l'ouverture de l'école hors contrat, depuis cette fameuse loi Gatel, c'est vraiment un parcours du combattant. Ils exigent que, par exemple, la directrice ou le directeur ait passé 5 années dans le système public, privé ou public. Ça veut dire qu'on va avoir affaire qu'à des enseignants du public, qui sont par ailleurs très bien, mais qu'en va-t-il de besoins d'innovation de personnes qui ont vécu en dehors de ce système ? Donc ça rend les choses vraiment très difficiles, hein, et puis un peu ridicules, parce que ça peut être un enseignant, mais ça peut être aussi un surveillant. Donc, moi, par exemple, je peux ouvrir une école avec un ancien élève qui ensuite a été surveillant dans une école pour se faire de l'argent de poche. Eh ben, il va pouvoir ouvrir l'école. Alors que quelqu'un qui a été que prof d'université ou qui est chef d'entreprise, lui, aura beaucoup plus de difficultés à ouvrir l'école. Donc, on est extrêmement surveillé. Alors que le système public n'évolue pas. Et comment peut-on imaginer que ce que l'on proposait à des enfants il y a un siècle puisse encore convenir aux enfants d'aujourd'hui? Ce n'est pas les quelques petites réformes qui n'ont pas grand sens, comme l'enseignement de telle ou telle nature grammaticale, comme le fait de lire tous les jours à l'école, comme les changements au niveau du bac, qui vont permettre aux enfants d'aujourd'hui de s'épanouir à l'école. Au contraire, notre système d'éducation publique est de moins en moins adapté. Les résultats des différents tests internationaux montrent un perpétuel recul du niveau des enfants français, et ce dans toutes les matières. Et le plus grave, c'est que les jeunes ne sont pas heureux à l'école, ils ne s'y épanouissent pas, ou peu, ou pas, quoi. Il y en a certains qui s'épanouissent, mais vraiment très peu, et les résultats sont de plus en plus mauvais. Et malheureusement, ce dont j'ai déjà parlé dans un épisode sur la phobie scolaire, il y a de plus en plus de jeunes en phobie scolaire, et de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt, ça arrive de plus en plus tôt. Donc il faut vraiment qu'il y ait d'autres alternatives pour les enfants. Donc je pense que vraiment le problème, il vient d'ailleurs. Les écoles hors contrat et l'instruction en famille offrent de bien meilleures perspectives aux enfants. Et aussi, simplement, il faut que les gens aient le choix. Donc je pense qu'il faut plutôt aller chercher ailleurs, comme je disais tout à l'heure, aller chercher les enfants qui sont déclarés nulle part, aller chercher... L'absentéisme, il y a un absentéisme important de certains enfants, aller chercher les écoles clandestines qui ne sont pas déclarées, aller chercher, comme je disais, les cours de langue, les cours de religion, les associations sportives ou culturelles qui sont parfois déclarées, mais parfois qui ne sont pas déclarées. Et n'oublions pas que les écoles hors contrat permettent aussi l'accueil de nombreux élèves qui ne trouvent pas leur place dans le système public actuel. Et aussi, elles accueillent des enfants de parents donc, qui ne partagent pas les valeurs du système pédagogique développé dans les écoles publiques ou privées sous contrat, qui cherchent que l'école apporte autre chose à leurs enfants autrement. Et ils sont libres de souhaiter cela et ils sont libres d'avoir une réponse à tout cela. Comment on peut imaginer qu'un seul système peut convenir à tous les enfants et à tous les parents de ces enfants? C'est une aberration et quelque chose qui est très dangereux aussi. On souhaite mettre les enfants dans un moule qui est décidé par l'éducation nationale, par l'État. Et qu'est-ce qu'on fait du besoin d'unicité, du respect de la différence de chacun, du besoin d'apporter à chacun une réponse en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il vit, et sans avoir des étiquettes. Hein. Celui-là, donc, il pourra rester à la maison parce que il est hypersensible. Celui-là, il pourra rester à la maison parce que il est précoce. Celui-là, il pourra rester à la maison parce qu'il est en phobie scolaire. Et ça va suivre les enfants toute leur vie. Donc plus tard, quand ils voudront exercer tel ou tel métier ou faire tel ou tel acte, ah bah oui, mais toi, t'as pas pu aller à l'école parce que t'étais trop sensible, parce que t'étais en phobie scolaire, parce que t'étais hyperactif, parce que t'étais ceci, parce que c'était cela. Mais c'est pas possible. Comment on peut imaginer, par exemple, que des enfants de 3 ans, puisque maintenant ils ont rendu l'instruction obligatoire à partir de 3 ans, qui pour moi est une aberration aussi, comment on peut imaginer que des enfants de 3 ans, qui sont tellement différents les uns des autres, vont pouvoir s'épanouir dans une classe de 30 enfants, tous du même âge, avec des niveaux de développement et de sensibilité tellement différents? Et comment une enseignante de ces classes pourra-t-elle apporter le meilleur à ses petits en leur offrant un enseignement adapté quand elle a 30 élèves? Moi, je reçois des messages de maman ou de papa, mais qui sont complètement déprimés parce que chaque matin, ils déposent leur enfant en larmes et qu'ils le récupèrent le soir en larmes. Mais est-ce que ces enfants, si on a la possibilité, ne sont pas mieux de rester à la maison avec un parent, une grand-mère, un oncle, une tante, une nanny? Est-ce qu'ils ne sont pas mieux dans des petites structures plus familiales, plus adaptées? Donc bien sûr, on va me dire, oui, mais ça c'est réservé aux parents qui ont de l'argent. Mais là, je dis non, rester à la maison, c'est un choix. Je connais des petites structures hors contrat en province qui proposent un enseignement pour pratiquement rien du tout. Et justement, là, l'enseignement, l'instruction en famille est meilleure. Comment imaginer qu'il est bon pour un enfant de faire chaque jour 45 minutes de voiture pour se rendre à l'école? Parce qu'avec les regroupements de communes et la suppression de certaines écoles, des petits bouts de 3 ans doivent passer 45 minutes dans la voiture, les réveiller tôt pour aller passer la journée à l'école, la même chose au retour, alors qu'ils pourraient rester chez eux à recevoir une éducation adaptée, choisie par leurs parents. Comment on peut imaginer que ça, c'est meilleur pour un enfant? Et je ne parle pas encore une fois du nombre toujours croissant et qui devient même effrayant de jeunes en phobie scolaire dans le système traditionnel public ou privé sous contrat. Qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes? On va les laisser tomber en dépression de plus en plus profonde, allant jusqu'au suicide, à l'anorexie? Ou alors on va décider de leur mettre une étiquette. Alors eux, ils auront le droit de rester à la maison et ils auront le droit... ils n'auront pas le droit aux écoles hors contrat puisque le but, c'est aussi un peu de supprimer les écoles hors contrat. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces jeunes? Mais comment on peut imaginer de retirer aux parents le choix de l'endroit où ils veulent que leurs enfants reçoivent l'instruction? C'est vraiment une atteinte profonde à leur liberté. Qui est mieux placé pour savoir ce qui est bon pour nos enfants? L'État? Les parents? Certainement pas l'État. Les enfants naissent dans une famille, les parents accompagnent leurs enfants depuis la naissance et on décide tout d'un coup qu'ils ne sont pas aptes à choisir le mode d'éducation pour leurs enfants alors que l'État peut le faire pour eux. Moi, vraiment, c'est quelque chose qui me révolte et qui, pour moi, porte une atteinte à nos libertés. C'est au cœur des droits de l'homme. Les parents font des choix pour leurs enfants. Ils décident de les instruire chez eux ou de les faire instruire à la maison ou de les instruire eux-mêmes ou de les mettre dans une école hors contrat. Mais ils doivent avoir ce choix. On peut choisir le système public. Il y a des enseignants extraordinaires dans le système public, mais on peut avoir besoin à un certain moment, à une certaine période de la vie du jeune ou de la vie de la famille, de décider d'instruire son enfant à la maison, de le faire instruire à la maison par un enseignant, d'instruire dans une école hors contrat. Mais pourquoi interdire cela? On veut lui interdire cette possibilité? On sait très bien qu'il y a des personnes très connues qui sont des références dans notre société qui ont bénéficié de l'instruction en famille, comme Luc Ferry, par exemple, qui était ministre de l'Éducation nationale, qui a été instruit en famille pendant plusieurs années. C'est une liberté que chacun doit pouvoir saisir quand il en a besoin. On peut en avoir besoin et on doit pouvoir le faire. Alors, ils disent qu'il faudra bénéficier d'un certificat médical pour que l'enfant suive l'instruction à la maison, mais ça va le suivre toute sa vie. Ce certificat, il sera dans son dossier et il faudra donc avoir besoin d'une justification pour pouvoir bénéficier de ces libertés fondamentales. Mais c'est pas possible. On sait que cette liberté, elle est reconnue dans le monde entier, sauf dans 4 pays, 3 petits pays plus l'Allemagne. Hein, on nous cite toujours l'Allemagne. Mais l'Allemagne, c'est un pays où on peut ouvrir des écoles alternatives avec une très grande facilité. Donc, ils ont ce choix d'éducation. Alors qu'en France, non seulement on veut interdire l'instruction en famille, mais ouvrir des écoles alternatives devient de plus en plus compliqué. Garder les écoles alternatives devient de plus en plus compliqué. Donc, en Allemagne, c'est tout à fait différent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment se battre et s'unir pour empêcher qu'on nous prive de nos libertés. Déjà, en cette période de pandémie, à juste titre, on a de nombreuses libertés qui nous sont supprimées, mais faisons justement tout ce qui est en notre possibilité pour maintenir nos libertés fondamentales. C'est vraiment essentiel. Pour cela, je vous conseille vraiment de vous rapprocher aussi d'associations comme par exemple Créer son école, dont la présidente Anne Coffinier développe tout ce qui est possible pour le soutien des écoles hors contrat, de l'instruction en famille, mais aussi plus généralement pour offrir le meilleur de la liberté scolaire au service des enfants. Mais je pense qu'il est vraiment, vraiment très important de prendre conscience de cette envie de nous priver de liberté fondamentale et de ne pas se laisser faire. C'est vraiment important. Les parents sont les plus adaptés à savoir ce qui est bon pour leurs enfants et il est vraiment fondamental que les parents puissent avoir un choix par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à leurs valeurs, par rapport à ce qu'ils ont envie d'offrir à leurs enfants. Le système public ne peut pas être un système unique. C'est pas possible. Ça peut pas être le seul. C'est pas un choix dans ce cas-là. Ça ne peut pas être la seule possibilité. qui leur est offert. Je connais de nombreux parents qui font l'instruction en famille et ils offrent des choses extraordinaires à leurs enfants. Ils font vivre une enfance fabuleuse à leurs enfants. Pourquoi vouloir empêcher cela? En plus, pour une minorité. Moi, je dirige des écoles hors contrat depuis plus de 30 ans et on essaye vraiment tous au cœur de ces écoles, les enseignants, d'offrir le meilleur aux enfants. Pourquoi nous empêcher de faire cela? C'est pas possible. On a des générations d'enfants qui sont passés dans nos écoles, qui sont venus des adultes bienveillants, des adultes œuvrons, qui puissent œuvrer pour la paix dans le monde, pour un monde meilleur, parce qu'ils ont eu la chance de bénéficier d'une éducation différente avec le respect de qui ils sont. Moi, j'ai vu des enfants surdoués, justement. On a fait l'interview de Sephora, qui a passé son bac avec 4 ans d'avance, qui est arrivée à l'école à 3 ans. Elle était en dépression à 3 ans parce que l'école ne voulait pas reconnaître sa différence, parce qu'elle donnait les réponses plus rapidement, parce qu'elle savait lire, elle avait appris à lire toute seule à 3 ans. Et on la mettait au coin, on la punissait. On veut que ce genre d'enfant reste dans ce système. Alors évidemment, je ne condamne pas le système public. Je dis qu'il ne peut pas être bon pour tout le monde. Je dis qu'on doit avoir le choix. Je dis que certains enfants ne peuvent pas s'épanouir dans ce système, pas à cause des enseignants, à cause du système. On ne peut pas obliger tous les enfants à faire la même chose au même moment. Ce n'est pas possible. Le système ne peut pas répondre aux besoins de chacun, de chaque famille. Chaque famille est différente, chaque famille a son mode de vie et il faut que chaque famille ait le choix. Et en plus, il ne faut arrêter de vouloir nous supprimer des libertés fondamentales. Moi, quand j'ai eu mes enfants, il était hors de question que je les mette à l'école publique ni privée sous contrat parce que j'avais une expérience qui était pas bonne de ce système et je ne voulais pas que mes enfants vivent la même chose. Et j'aurais jamais supporté qu'on me prive de ce choix-là. J'avais envie d'autre chose pour mes enfants. J'étais la mieux placée pour savoir ce dont ils avaient besoin en fonction de ce qu'ils étaient. Donc laissons ce choix aux familles.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.